foi et turbulence.
Bonjour, Mathieu Lavigne avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver pour cette édition de Foi et Turbulence en formule Grande Entrevue. Très souvent, dans l'opinion publique, on réduit le message de l'Église à ses positions sur le plan de la morale et plus particulièrement de la morale sexuelle. Pourtant, depuis plus d'un siècle, l'Église catholique confronte l'appel de l'Évangile aux questions de société, élaborant au fil du temps la doctrine sociale de l'Église. De grandes figures se sont réclamées de l'enseignement social de l'Église et plusieurs saints furent engagés dans des luttes sociales de leur époque. Pensons notamment à Mgr Oscar Romero, canonisé en octobre 2018. Malgré son importance, malgré l'importante place qu'elle tient dans son enseignement, la doctrine sociale de l'Église est méconnue, mal comprise. Pour y voir plus clair, pour mieux en saisir le contenu et la pertinence pour notre époque, pour mieux connaître quelques témoins majeurs de l'enseignement social de l'Église, j'ai le grand bonheur d'accueillir ce matin en studio Brian McDonough et le frère dominicain Daniel Cadrin. Brian McDonough est professeur invité à l'Institut pastoral des Dominicains et a longtemps été le directeur de l'Office de la pastorale sociale à l'Archevêché de Montréal. M. McDonough a également siégé au comité consultatif régional de la Commission de vérité et de réconciliation. De son côté, Daniel Cadrin est directeur adjoint de l'Institut pastoral des Dominicains de Montréal, en plus d'y enseigner. Daniel Cadrin et Brian McDonough donnent actuellement à l'Institut pastoral un cours sur l'enseignement social de l'Église et ses témoins. Merci d'être à l'écoute et bonne émission. Brian McDonough, frère Daniel Cadrin, bonjour.
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 Alors, Brian, Daniel, on va parler de doctrine sociale de l'Église. Il faudrait quand même définir ce qu'est la doctrine sociale de l'Église avant d'aller plus loin, avant de plonger. Alors, qu'est-ce qu'on entend par doctrine sociale de l'Église? Comment cette notion, somme toute récente, prend-elle forme au fil de l'histoire de l'Église catholique? Brian McDonough.
Alors, d'abord, c'est une connaissance qui est éclairée par la foi. Les chrétiens, depuis 20 siècles, essaient de comprendre comment on vit l'Évangile dans des contextes sociaux, culturels et économiques fort différents. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment une connaissance, mais qui se veut éclairée par la croyance en Jésus-Christ. Et deuxième point que je soulignerais, c'est une connaissance qui est en dialogue cordial avec chaque savoir. Anthropologie, sociologie, sciences économiques, évidemment. Mais je dirais aussi l'histoire. Et aussi dans les sciences humaines, la littérature, la poésie, le théâtre, ce sont tous des éléments qui alimentent justement notre connaissance de comment vivre l'Évangile aujourd'hui. Troisième aspect, je voudrais souligner, c'est que c'est une expression du ministère d'enseignement de l'Église. L'Église catholique, comme l'on peut voir dans d'autres traditions religieuses, a une conviction qu'elle a un message, une bonne nouvelle à transmettre. C'est un enseignement. Un enseignement aussi qui a été l'objet de critiques, d'analyses et une tradition vivante. Et c'est une connaissance, quatrièmement, qui vise une société réconciliée dans la justice. Justice dans le sens que l'on respecte les besoins suscités par le souci pour la dignité de la personne humaine, mais aussi dans l'amour. Dans la générosité, la compassion et, comme le pape François dirait, la miséricorde. Et cinquième point que je voudrais souligner, c'est un message pour les membres de l'Église, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. C'est pourquoi, quand les instances de l'Église interviennent en commission parlementaire ou devant l'Assemblée nationale ou dans tout autre forum public, cette pensée-là doit être transmise de façon que ça soit compréhensible, reçu par
donc,
les gens.
En dialogue avec l'époque.
Exactement, c'est ça. Oui. Alors, au lieu de, c'est important de citer les textes bibliques, mais il faut que ça soit compréhensible aux hommes et femmes de notre temps. Il faut que ça parte d'un discours raisonné et raisonnable.
Oui.
Et dernière chose que je soulignerais, pas le moindre, c'est que c'est une connaissance qui est sous le signe de la continuité. Depuis 20 siècles, mais aussi du renouvellement. C'est une doctrine qui est toujours en évolution à fur et à mesure qu'on essaye de répondre à des réalités, des exigences de contextes différents.
Oui. Et Daniel Cadrin, Brian évoquait les sources bibliques, les textes bibliques. Alors, l'enseignement social de l'Église catholique prend sa source, entre autres, dans la Bible. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de textes dans lesquels la doctrine sociale de l'Église vient s'enraciner? Allons-y avec l'Ancien Testament.
C'est très abondant. Il y a plusieurs pistes. Il y en a une, si on prend la Genèse, sur la création, c'est la bonté de la création, l'être humain créé à l'image de Dieu. Déjà, là, tu as des bases pour la création qui est confiée à la présidence de l'être humain. Mm-hmm. Ensuite, il y a tout l'Exode, la libération du peuple d'Israël, de l'esclavage en Égypte, le passage de l'oppression à la liberté, et que Dieu entend le cri de ceux qui souffrent. Et toute une autre ligne de libération. Tant les prophètes qui font appel au droit, à la justice pour les pauvres. Amos, c'est extraordinaire, c'est une des premières voix humaines qui fait entendre une conscience nouvelle, la dignité de chaque être et de l'injustice, de l'oppression. Ou ensuite, tu as le principe de base qui est dans plusieurs textes de la Bible, de l'Ancien Testament, Dieu a le souci de l'orphelin, de la veuve et de l'étranger. Ce sont les trois catégories sociales les plus fragiles, les plus vulnérables à l'époque. Mmh. Mais Dieu a le souci, et nous invite donc, c'est très présent. Il y a ce beau psaume aussi, j'ai oublié, 84, je ne me rappelle plus. Justice et paix s'embrassent. Donc, c'est une...
Donc, plusieurs éléments dans l'Ancien Testament.
Extrêmement riche. Hein.
Et Brian McDonough, on peut penser que, dans le Nouveau Testament, évidemment, les évangiles...
Mais oui.
Mais il y a si du matériel là.
Si tu me permets, Mathieu, de rendre hommage à mon ami Daniel...
Avec plaisir.
comment Saint Paul parle justement de l'importance de... manifester une sollicitude mutuelle. Alors, dans justement la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, Paul écrit « Un membre souffre-t-il? Tous les membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les membres prennent part à sa joie. » Alors, c'est cette solidarité, cette préoccupation qui est pour moi une des sources, par exemple, de ce principe qu'on parle de l'option préférentielle avec les pauvres.
Mm-hmm. Oui. Mm-hmm. Et dans la vie de Jésus, il y a énormément
Absolument. C'est extraordinaire, moments, d'ailleurs. Dans le cours que j'anime, on fait un exercice. On regarde quelques extraits des évangiles où Jésus entre en dialogue ou est en contact avec des gens qui sont exclus socialement ou dans la pauvreté, dans la dèche. Mmh. Et on voit l'interaction de Jésus qui étonne ses disciples et étonne la foule.
Oui.
Alors ça, je trouve ça très, très intéressant. Mmh. Et puis on sent chez Jésus, à partir des tripes, cette sollicitude, cette compassion, et c'est très, très fort. C'est très, très fort. Il nous interpelle.
Une capacité à dépasser les barrières sociales.
Exactement. Oui. C'est ça que ça... Et puis, manifestement, dans ses interactions avec les femmes.
Oui.
Ça, c'est très, très fort. Et aussi, il n'a pas peur de confronter les autorités politiques et les gens qui se disent les bien-pensants, les autorités religieuses qui pensent savoir ce que Dieu exige.
Oui. Voilà. Daniel, vous voulez ajouter quelque chose?
Puis je pense aussi, dans les premières communautés chrétiennes, la question du partage des biens.
Absolument.
Voir est-ce que chacun a tout ce qu'il faut. Il y a une vision derrière ça très égalitaire sur tous les êtres humains et du souci des uns des autres. Ou chez Paul, l'idée d'une fraternité universelle, tous les êtres humains, hommes, femmes, de toute culture, race, il y a une égalité fondamentale.
Oui.
Là, tu as les principes qui sont sous-jacents à la doctrine sociale de l'Église, les textes bibliques là-dessus.
Et si je peux aussi ajouter, à la lumière de ce que Daniel vient de dire là, on parle justement d'une pensée qui est en évolution, en développement. Oui. Et on voit Jésus dans son interaction avec la femme syro-phénicienne, que lui se trouve interpellé par la rencontre avec cette femme qui demande que sa fille soit guérie. Elle demande, elle exige. Et puis Jésus qui se dit appelé à répondre aux besoins de le peuple de Dieu, le peuple hébreu, le peuple juif, se voit vraiment interpellé par la foi de cette femme. On a l'impression que Jésus se voit obligé de dépasser même sa mentalité, même ses préjugés qu'il a, parce que c'était un juif du premier tiers du premier siècle, un juif palestinien. Alors ça, c'est super. Ça nous invite, nous, de regarder à partir de notre contexte, quelles sont les exigences de suivre la bonne nouvelle, suivre l'exemple de Jésus.
De faire prendre conscience qu'on n'est pas déterminé par notre environnement,
au
moins pas
justement.
Complètement. C'est ça, il y a une liberté. Là.
C'est ça.
Donc, la doctrine sociale de l'Église s'enracine et s'actualise également via les textes produits lors des conciles. Donc, elle prend sa source dans la Bible, le Nouveau et l'Ancien Testament, mais aussi, elle prend sa source ou se développe, évolue via les textes produits lors des conciles, via les écrits des papes, les écrits aussi des conférences épiscopales. Daniel Cadrin, est-ce qu'il y a pour vous des textes de ce type ou de ces types qui sont des incontournables?
Pour moi, il y en a plusieurs, mais en tout cas, Brian, pour mieux compléter ça, tout d'abord, je dirais le Synode des évêques sur la justice en 1971, qui était vraiment comme un point tournant. Très clairement, le combat pour la justice fait partie de l'annonce de l'Évangile. Ensuite, Populorum Progressio en 1967 du pape Paul VI sur le développement des peuples, la question du droit international, de la paix, c'est un texte majeur comme tel. Et puis, moi, j'aime bien le pape François. Et dans la joie de l'Évangile, c'est l'évangélisation, mais il ne faut pas oublier que tout le chapitre 4 porte sur l'évangélisation en lien à l'engagement social. C'est très développé, c'est tout un ensemble d'éléments. Je trouve ça bien ramassé, extrêmement riche.
Oui, Brian?
Alors moi, je voudrais souligner l'importance capitale de l'encyclique Laudato Si, où il fait un lien entre, par exemple, la crise vécue par des personnes en situation de pauvreté et la crise de la terre, la terre-mère. Ouais. Les deux sont liés. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans l'encyclique, François insiste que tout est lié.
Tout est lié,
Que lorsque nous ne respectons pas la terre, quand on ne respecte pas les règles, la loi de la nature, ce sont surtout les personnes en situation de pauvreté et d'exclusion qui subissent les conséquences. On peut voir ça non seulement en Amazonie actuellement, mais le vécu des peuples autochtones dans des parties différentes du pays, où on voit, par exemple, à cause des coupes à blanc ou l'exploitation minière, soudainement, ce sont ces peuples-là, ces nations-là, ces communautés-là qui se voient menacées, fragilisées.
Oui. Et le texte Laudato Si a eu un impact aussi à l'extérieur des cercles ecclésiaux. Là, je veux dire, Naomi Klein en a parlé dans New Yorker. Il y a eu des gens de l'extérieur ce texte a eu un impact en présentant tout ça d'une façon très globale, en montrant justement que tout est lié.
Et surtout, le premier chapitre offre des données scientifiques. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la tradition catholique, c'est que on prend sérieusement la science, connaissances scientifiques. Au lieu de les écarter ou les relativiser, c'est vraiment, ça fait partie du voir. Mm-hmm. Et à partir de ce voir-là, on peut apporter un jugé théologique et éthique, en puisant évidemment dans notre tradition, dans les textes bibliques, et aussi, je dirais, notre prière.
Et qu'est-ce qui marque le début de l'enseignement social de l'Église en termes d'encyclique? Je pense que c'est Rerum Novarum qui est peut-être souvent considéré comme le premier...
Je dirais dans les temps modernes.
Dans les temps modernes,
on peut regarder, par exemple, le pape Léon, au 5e siècle, parlait justement de la destination universelle des biens, la propriété privée n'est pas un absolu. Que lorsqu'on est dans une situation de pauvreté, lorsqu'on est en situation d'urgence, la personne ne peut pas, au nom de la propriété privée, garder son bien exclusivement pour lui. Il y a une hypothèque sociale. Les biens doivent être utilisés pour promouvoir le bien commun et pour répondre à des besoins urgents des frères et des sœurs. Et ça, c'est quand même cinquième siècle. Et puis, Daniel, plus calé que moi sur ça, mais toute la tradition patristique est à la source de, justement, la reconnaissance de la dignité de la personne. Il y a énormément d'éléments. Je sens que même dans les premières heures après de l'Église, à partir de la Pentecôte, les disciples cherchaient à comprendre comment être un disciple fidèle de Jésus dans un contexte confronté par la réalité de l'exclusion, la pauvreté, oui, la persécution, l'oppression du pauvre et de l'exclu.
Mm-hmm. Et donc, moi qui pensais que tout commençait avec Rerum Novarum et la révolution industrielle, mais finalement, on peut monter un peu plus loin que ça.
Ouais. Thomas Aquin avait des choses fort intéressantes et importantes à dire.
Ah, les Dominicains.
Oui, tout à fait. Et Saint Augustin aussi, parlait de justice et charité, le lien entre justice et charité, chez Augustin, c'est très important. Et on bâtit sur ça, sans parler aussi, ça c'est une question beaucoup plus controversée aujourd'hui, la question de la guerre juste.
Ah oui.
Et ça vient d'Augustin, développé d'une façon majeure par Thomas. Mais comment, en quelque sorte, vivre cet engagement pour la non-violence et pour la promotion de la paix dans un contexte complexe?
Oui, oui. Et justement, vous évoquez la non-violence. Plusieurs penseurs, théologiens et autres vont présenter la non-violence comme un agir, un peu comme la quintessence de l'agir chrétien. Donc, parce que la doctrine sociale d'Église, il y a une réflexion derrière ça, mais aussi un appel à l'action.
Absolument.
Donc, diriez-vous que la non-violence est le mode d'action proprement chrétien au niveau de l'engagement social, disons?
Pour moi, c'est une majeure. Mm-hmm. Et de plus en plus, c'est pourquoi je regarde, par exemple, un grand prophète comme le pape François parle de plus en plus d'une paix juste au lieu d'une guerre juste.
Oui.
Quelles sont les conditions pour promouvoir une paix juste? Alors, il y a, encore une fois, un mouvement dans la pensée de l'Église, mais aussi, c'est une pensée qui doit toujours être marquée par une certaine, je dirais, prudence. Oui. Prudence dans le sens, encore une fois, chez Thomas, de tenir compte des réalités complexes.
C'est pas être enfermé dans une idéologie.
Et voilà.
Il y a des personnes, il y a des situations, il y a des contextes, il y a des principes. Et là, tu vois qu'est-ce qui est possible aussi.
Donc, la non-violence, oui, c'est un agir, la quintessence, disons, de l'agir chrétien, mais il y a aussi cet aspect de tenir compte du contexte.
Pratique.
Voilà. Donc, l'analyse, d'observer.
Alors, si tu me permets, Mathieu, ça, c'est un domaine qui t'intéresse beaucoup, la justice réparatrice.
Ah, n'est-ce pas?
Quelquefois, il faut intervenir de façon musclée.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Au nom de la promotion du bien commun, pour protéger la société, protéger des innocents, protéger des faibles. Et quelquefois, ça prend des forces policières et ça prend un système de justice pénale.
Oui.
Certes, ce système de justice pénale doit être toujours revu à la lumière de justement les principes de la justice réparatrice qui, pour moi, sont prophétiques. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter l'importance de, je veux dire, une intervention musclée lorsque c'est nécessaire. Mm-hmm. C'est nécessaire.
Ouais. Oui.
Et même des personnes incarcérées que je connais m'ont déjà dit que si ce n'était pas pour l'arrestation, ils seraient morts aujourd'hui.
Tout à fait. Que certains vont dire que la prison a sauvé leur vie.
Exactement, c'est ça. Oui. Alors,
oui,
encore une fois, Thomas parle beaucoup de la prudence, et ça, c'est très important de savoir comment, lorsqu'on a des responsabilités de gouvernance, quand il faut s'occuper de la communauté politique, ça prend une certaine sensibilité, une intelligence, mais se laissant toujours interpeller par la dimension prophétique portée par les grands témoins de la non-violence dans notre monde.
Mm-hmm.
Et puis sur la question de la non-violence, l'Église a fait une évolution assez récente sur la question de la peine de mort.
Tout à fait, oui.
Jean-Paul II était très clair, le refus de la peine de mort, pas question.
Mm-hmm.
Et ça a été repris par ses successeurs, même si c'est plus ou moins entendu par bien des gens.
Oui, oui. Et on évoquait tout à l'heure la notion de bien commun. Est-ce qu'avec la dignité des personnes, ça pourrait constituer, disons, le fondement essentiel de l'enseignement social de l'Église?
Alors, moi, je trouve qu'il y a une belle dialectique, une certaine polarité. D'un côté, il y a la dignité de la personne humaine, comme tu viens de dire, là.
Mm-hmm.
Et pour se demander qu'est-ce que ça mange en hiver, ce principe-là, on peut peut-être imaginer une expérience qu'on a eue dans sa vie, où on s'est senti davantage traité comme quelque chose que comme quelqu'un. Hein? Je pense, nous tous, que ce soit dans le milieu de travail, dans la famille, en communauté, dans certaines relations, quelquefois on a senti qu'on n'était pas respecté comme personne. On n'était pas quelqu'un, mais quelque chose. Que ce soit, par exemple, quelqu'un qui produit, qui génère des profits au bénéfice d'autres.
Mm-hmm.
Ça, c'est un pôle très important. Je dirais même que c'est le principe maîtresse. Mm-hmm. L'autre principe, l'autre pôle dans la fameuse dialectique, c'est justement la promotion du bien commun. Et il est important qu'on parle de bien commun, on ne parle pas de la terre, l'air, des choses comme ça. Je parle là de cet ensemble de conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur épanouissement d'une façon plus totale et plus aisée. Alors, quand on parle de conditions sociales, ça veut dire ça, comment est-ce que les exigences de l'alimentation, santé, logement, transport, travail, éducation, un environnement sain, comment est-ce que ces éléments-là, ces exigences-là, s'imbriguent? Mm-hmm. Alors ça, c'est important de reconnaître ça.
Oui.
Alors, quand quelqu'un, par exemple, dans un quartier populaire de Montréal, trouve que se voit, en quelque sorte, forcé de quitter son quartier où il a tout son réseau d'amis, accès à la culture, Bibliothèque nationale du Québec, ou même le petit épicerie du coin, est obligé de quitter parce que le proprio a décidé de retaper le logement pour recevoir des revenus.
Phénomène de gentrification.
Exactement, c'est ça.
Oui.
Et la personne qui vit dans le quartier est en situation de pauvreté ou avec des moyens illimités se trouve obligée de quitter son quartier, se trouver dans des quartiers, par exemple, où le transport en commun est limité, où il y a seulement les grandes surfaces. Là, on voit que les conditions sociales qui permettent l'épanouissement à cette personne et cette famille sont en danger.
Mmh. Oui.
Alors ça, c'est comme je dis, la dignité de la personne humaine et la promotion du bien commun sont deux pôles dans une dialectique importante.
Oui. Daniel?
Puis, un principe aussi important dans la doctrine sociale, c'est la subsidiarité. C'est-à-dire une vision de la vie en société où il n'y a pas l'État et l'individu, mais il y a tout un ensemble d'intermédiaires, de groupes, d'associations, de coopérations, et qui chacune, à son niveau, a un pouvoir réel.
Ce qu'on pourrait appeler le tissu social, en quelque sorte.
Oui, mais avec une réelle responsabilité, subsidiarité, c'est-à-dire ce qui doit être réglé au niveau municipal ne doit pas l'être au niveau juste d'un petit quartier ou au niveau provincial, mais t'assumes ta responsabilité. Alors, il y a aussi derrière là-dedans l'idée que l'être humain est responsable et est fait pour travailler avec d'autres. Tout le mouvement coopératif, là, qui est né à Lévis, ma ville d'origine, début du 20e siècle, c'est né directement de l'encyclique sociale Rerum Novarum et comme une volonté de mettre en œuvre la doctrine sociale de l'Église. Et c'était l'idée d'une coopération, d'une égalité, d'un travail ensemble, d'une subsidiarité. Ça, c'est très riche, puis ce qu'on appelle l'économie sociale, c'est très lié à ça.
C'est ça, c'est ça. Donc, l'engagement, dans le fond,
l'engagement,
c'est être citoyen, c'est être engagé.
C'est un petit peu plus qu'appuyer « like » sur Facebook.
C'est ça.
Oui, mais c'est autre chose que ça.
C'est ça.
C'est ça. Mais je voudrais aussi parler de la solidarité.
Oui.
Parce que ça, c'est un principe qui a été vraiment articulé d'une façon extraordinaire par le pape Jean-Paul II. Et quand on parle de solidarité, il y a le volet, j'appellerais, valeur morale. Valeur morale dans le sens que nous sommes tous responsables pour tous, hein, à sa façon, à un degré différent, certes, mais nous sommes tous responsables pour tous. S'il y a quelqu'un qui est torturé, par exemple, en Myanmar, ou quelqu'un, une famille ou une communauté voit ses droits, son accès à l'eau menacé, ça me concerne, même si je suis au Québec. Ça nous concerne. Mais il y a aussi le volet principe social ordinateur des institutions. Hein? On peut parler, par exemple, dans notre société, de structure de péché, système d'exploitation, des systèmes d'accaparement des ressources.
La culture du déchet.
Déchet, exactement, mais aussi l'industrie des armes et tout ça. Là, je veux dire, ça, c'est important. Donc, il y a des structures qui doivent être dépassées et transformées en structures de solidarité. Et ça, ça prend des lois, de règles de marché, la création d'institutions, en quelque sorte, pour contrôler ces structures de péché qui sont un peu partout dans notre société, que ce soit, par exemple, l'industrie de la pornographie, que ce soit, par exemple, aussi une déréglementation, je veux dire, du marché financier.
Une économie débridée.
Exactement, là. C'est ça.
Oui.
Alors, la solidarité exige justement qu'on s'en occupe, mais d'une façon intelligente, en mettant en place les moyens pour s'attaquer à ces causes-là, à ces structures.
J'ai le goût de vous lancer, pour terminer ce premier bloc d'entrevue, j'ai le goût de vous lancer cette question. Est-ce qu'agir en fonction de l'enseignement social de l'Église, c'est seulement le fait des catholiques qu'on pourrait présenter comme étant de gauche? Est-ce que suivre la doctrine sociale de l'Église, c'est nécessairement être un catholique de gauche, Daniel?
Non, moi je crois pas, parce que les êtres humains sont beaucoup plus complexes que ça, mm-hmm. les chrétiens aussi. Alors, il y a bien des chrétiens qui vont être très engagés dans la doctrine sociale de l'Église, sur le terrain et dans leur vision, mais dans d'autres domaines, liturgie ou autre, plutôt très traditionnel. C'est, ou l'inverse, je veux dire, c'est très relatif tout ça. Et puis ensuite, il reste que dans la doctrine sociale de l'Église, une critique du néolibéralisme et de la société de consommation, de ce qu'on appelle aujourd'hui les gens ouverts. T'sais. Souvent, des fois, à gauche, on pense plutôt libéraux, très ouverts à tout, mais la doctrine sociale de l'Église le rentre dedans. Pas mal, mais c'est vrai.
Oui.
Société de consommation, tout ça, puis mm-hmm. c'est un univers qui est beaucoup la société québécoise actuelle. Mm-hmm. Les droits de chacun, mais chacun s'en occuper des autres. Là.
Oui.
Alors, pour ça, c'est pas simpliste, disons.
C'est ça, on revient à Thomas d'Aquin. Là.
Brian? J'ajouterais aussi que... la pensée sociale de l'Église offre des pistes pertinentes à des personnes qui ont des responsabilités comme dirigeants ou dirigeantes d'entreprises.
Ah ben oui.
Je regarde chez le pape Benoît XVI, il a écrit une encyclique qui n'est pas assez lue, pas assez appréciée, Caritas in Veritate. Ah, oui. Et il y a des éléments là-dedans sur la vie économique qui sont extraordinaires, qui sont extrêmement interpellants. C'est une encyclique qui a été écrite peu après la fameuse crise de 2007-2008, l'effondrement des institutions financières, la faillite de grandes banques, et avait un impact épouvantable sur l'économie, moins au Canada, moins au Québec, mais un impact terrible.
Oui.
Et là, il y a des éléments dans cette encyclique de le pape Benoît XVI qui interpellent justement notre compréhension du marché, et qui aussi invite des responsables d'entreprise à justement tenir compte de la dimension éthique plutôt que de bénéficier exclusivement leurs actionnaires.
Oui.
Et ça, c'est fort. Alors pour moi, la pensée sociale de l'Église s'adresse absolument à tout le monde. Tout le monde. Et encore une fois, je pense que c'est une pensée qui doit interpeller par exemple, les personnes qui ont des responsabilités en société, au plan politique au plan de l'organisation sociale.
Mm-hmm.
Donc, c'est une bonne nouvelle, mais pour tout le monde.
C'est ça. Ouais, donc, on va inviter les personnes qui ont été élues tout récemment à se plonger
dans
les divers textes qu'on a évoqués au fil de cette première partie.
En lien direct avec les enjeux.
Et voilà. Donc, Daniel Cadrin, Brian McDonough, on va poursuivre cette discussion sur l'enseignement social de l'Église catholique après une courte pause musicale. Et au retour, on va se pencher sur quelques témoins marquants d'un christianisme socialement engagé. Alors, à tout de suite.
We shall overcome one day. We shall overcome the Lord one day. Yeah. If in our heart we do believe, Lord, we shall overcome, Lord, one day. We shall all have peace one day. We shall all have peace one day. We shall all. We love, we shall all be free one day, love. We shall all be free, Lord, one day. Lord, Lord, yeah, fill our heart, yeah, do believe, Lord, we shall.
Vous êtes toujours à l'écoute de Foi et Turbulence sur les ondes de Radio-VM. Mathieu Lavigne au micro, en compagnie de Brian McDonough et du frère dominicain Daniel Cadrin. L'engagement pour la justice et la paix est au cœur de l'annonce de l'Évangile. Au cours de l'histoire, des figures remarquables furent les témoins passionnés et agissants, donnant visage et main à l'enseignement social de l'Église. Après avoir défini ce qu'est la doctrine sociale de l'Église et évoqué son histoire, ses sources bibliques, cette seconde portion d'entrevue sera l'occasion de présenter quelques figure d'un christianisme socialement engagé. Ces témoins ont été choisis par nos deux invités, Brian McDonough et Daniel Cadrin, voyant dans ces récits de vie, enseignement et inspiration pour mieux surmonter les défis de notre temps. Alors, Daniel Cadrin, à vous de plonger, vous allez nous présenter la première figure la première figure choisie pour parler, figure incarnant la doctrine sociale de l'Église. Vous avez choisi Bartholomé de Las Casas, un frère dominicain, il n'est pas de hasard, né en 1484.
Oui. Alors, Las Casas, c'est une des figures fortes prophétiques dans l'histoire de la vie de l'Église, un témoin d'un engagement pour les droits de chaque être humain et pour les droits des peuples. J'en reviendrai là-dessus. Quelque chose de très fort. Alors, il vient de la fin du 15e siècle. Qu'est-ce qui est important? C'est, du côté de l'Europe, la découverte des Amériques, des deux univers qui se rencontrent, qui s'affrontent. Et alors, Las Casas, il vient de Séville. Hein? Séville, c'était le grand port en Espagne. Et quand Christophe Colomb est revenu d'Amérique, c'est à Séville qu'il est allé. Le père et les oncles de Las Casas ont rejoint Christophe Colomb pour son deuxième voyage en Amérique. Il est élevé là-dedans. Et alors, premièrement, ça marque l'imaginaire d'un enfant. Et quand il a eu 18 ans, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Amérique à son tour, mais pour s'y installer comme un colon sur l'île d'Hispaniola. Aujourd'hui, c'est Haïti et la République dominicaine. Et là, bon, le système qui était à l'époque, c'est un système terrible, il faut bien le dire. Les colons qui arrivaient, on leur donnait une partie de terre et dessus, les Indiens qui étaient là, donc, comme travailleurs exploités. En principe, ils devaient s'occuper de bien les traiter, leur enseigner la foi chrétienne et tout, mais en fait, c'est des esclaves, en pratique. C'est un système d'esclavage, carrément, qui s'est développé assez vite. Et bon, alors là, c'est un colon parmi d'autres. Bon, il traite bien, c'est un bon gars, traite bien ces Indiens, mais il rentre dans le système complètement. Et là, ce qui va se produire, c'est qu'en 1511, il y a une équipe de Dominicains, c'est comme ça, qui arrive sur l'île d'Hispaniola, avec Pedro de Cordoba, puis Montesinos, un prêcheur, qui, eux, jugent complètement inacceptable ce système d'esclavage. Antichrétien. Très clair. Hein? Et qu'ils le disent nettement, qu'ils le prêchent. Hein? Célèbre homélie de Montesinos, là. Ce sont des êtres humains comme vous.
Donc, ils s'attaquent au pouvoir. On l'évoquait en première partie d'entrevue.
De front.
Oui.
Alors, ils sont, imagine, ils ne seront pas entendus, mais ils seront attaqués de toutes parts, etc. Las Casas, c'est là, quand ce serment-là est fait. Mais, ça rentre en lui, mais encore de... Bon, au cours de ces années aussi, il est devenu prêtre. Il était aumônier dans l'armée, bon. Mais il y a toujours son domaine. Et, en tout cas, il est... En 15-14, il a une conversion. Il doit prêcher, puis à un moment donné, il a vraiment une conversion où l'appel de Montesinos lui revient. La façon dont nous traitons les Indiens est injuste, est tyrannique, est inacceptable. C'est anti-évangile, anti-chrétien. Et là, il bascule de l'autre côté. Et bien ça, c'est le tournant de sa vie. Et évidemment, il va se faire critiquer puis rejeter, comme les Dominicains l'ont connu. Et à ce moment-là, il se joint un Dominicain pour travailler avec eux. Bon, plus tard, il va devenir lui-même Dominicain, 1522, devient Dominicain. Et là, la vie de Las Casas, ça va être une vie... Il va vivre très vieux, hein, il est mort il y a plus de 80 ans. Une vie de lutter pour la protection des droits des Indiens. Et avec lutter sur le terrain, en Amérique, et il va régulièrement aller en Espagne pour défendre les droits au plan des autorités du gouvernement, du roi, et au niveau de l'Église aussi. Hein? Il va toujours jouer sur les deux terrains. La pratique du terrain immédiate et le changement des lois et l'influence auprès des gouvernants. Bon. Et bon, c'est toute une histoire. Et entre autres, bon, il s'est retrouvé évêque du Chiapas, au sud du Mexique. Il est parti là avec tout un groupe de Dominicains. Et ils ont été complètement rejetés, et par les autorités, les soldats, les colons. Plusieurs Dominicains ont été tués, d'ailleurs. Finalement, il n'a pas pu rester. Il a fallu qu'il quitte carrément. Et à partir des années 1550, il va plus s'installer en Espagne pour mener le combat pour les droits des Indiens. Mais bon, il y a aussi ça, c'est que Las Casas a très bien enseigné et beaucoup écrit. Hein. C'est aussi un penseur, hein. C'est pas juste un homme d'action. Et il a ramassé tout ce qu'il pouvait sur l'histoire des peuples autochtones en Amérique. Tout ce qu'il a pu trouver. Des témoignages, des machins. Et donc, il a écrit beaucoup sur ce qu'il appelle l'histoire des Indes. Mm-hmm. Et avec les récits de tous les massacres, les génocides, les persécutions, l'esclavage, tout ce que tu veux, et qu'ils essayaient de documenter le plus précisément possible. Alors, tu dis ça, c'est absolument... C'est frère, c'est accablant. Et Las Casas a été détesté par les Espagnols encore jusqu'à aujourd'hui. T'sais. Il donne un portrait tout le monde terrible. Hein,
oui.
Mais bon il met le doigt sur les choses, il les nomme.
Donc on retient cette espèce d'équilibre entre réflexion et action.
Oui. Puis ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très important chez lui. Il faut aussi donner une base doctrinale solide à la lutte pour les droits des peuples. Donc, il a beaucoup étudié, il a beaucoup écrit. Les pères de l'Église, les Écritures, connaît la Bible, tout ce que j'ai dit, là, peut trouver des choses semblables sur lui. Les pères d'Église, Thomas d'Aquin, il a utilisé tout ce qu'il pouvait pour donner des fondements à ça.
Donc, s'inscrit quand même dans une tradition.
Oui, puis il a donné des fondements et il ne travaillait jamais seul. Mm-hmm. Je parle de Las Casas, mais il est le témoin d'un vaste mouvement dans l'Église, hein? Chez les Dominicains, chez les Franciscains, chez les Délègues, tu sais, c'est d'un réseau.
Oui.
Et entre autres, il travaillait en collaboration avec Salamanque, Francisco de Vitoria, un juriste et un théologien, qui lui travaillait à repenser toute la question des droits. Mais enfin, à poser la question des droits et les droits des peuples. Pas juste de l'individu, les droits des peuples. Donc, il y avait un travail universitaire, un travail sur le terrain, pour lutter pour les droits des gens, un travail auprès des gouvernants et des lois pour changer les structures, changer les lois. Bon, tout ça va aboutir à un moment donné, il y a des lois qui vont être changées de fait pour protéger les Indiens. Le pape va absolument se prononcer contre l'esclavage, hein, c'est inacceptable. Mais évidemment, ce ne sera pas toujours entendu ni appliqué, ce que décide le gouvernement et ce à quoi appelle le pape et les évêques.
Donc, une figure, on s'entend, juste à vous écouter, Daniel, on comprend qu'il y a une actualité là, pour ce personnage-là. Donc, le mode d'action, cette espèce de réflexion, d'équilibre entre la réflexion et l'action, le fait de critiquer le pouvoir. Donc, une figure inspirante
Mais
aujourd'hui.
Le fait aussi de faire changer les lois.
C'est ça.
Il faut changer, le système. Hein? Mm-hmm. Mais en te basant et sur l'étude et sur un paquet d'experts, d'études sérieuses et aussi le terrain, la condition que vivent les gens. C'est tout ça qui est ensemble. Mais il y a aussi chez Las Casas toute la réflexion sur l'évangélisation, l'annonce de l'évangile, dont la lutte pour la justice en fait partie pour lui. Mm-hmm. Et je le redis parce que c'est une formule qui est tellement juste. Comme il disait, les loups ne peuvent pas évangéliser les agneaux.
Oh, on va réfléchir.
Tirer les conséquences.
Il y a quelques années, il y a eu un documentaire qui voulait une récréation, je veux dire, de l'époque. Le nom de ce documentaire est La controverse de Valladolid.
Oui. C'est un film et une pièce de théâtre.
C'est ça.
Avec Las Casas.
C'est extraordinaire. Ça vaut vraiment la peine de voir ça. Et puis, c'est pas suffisamment vu, je crois, au Québec. Non. Et puis, ça toute une importance. Mm-hmm. Mais dans, justement, ce documentaire, on voit comment ce grand penseur, Bartolomé de Las Casas, a fait avancer, justement, la pensée au plan juridique, au plan de droit international.
Oui, c'est ça.
Et comme tu disais tout à l'heure, les droits des peuples, et des, ça c'est très très fort. Oui. C'est pas suffisamment vu ça.
Oui.
Même, comme il disait très clairement, on est au 16e siècle, là. Les peuples, quels qu'ils soient, chrétiens, pas chrétiens, ça n'a absolument... Tous ont la même dignité, les mêmes droits de gérer leurs choses. Donc, ça, tout de suite, ça s'oppose à une guerre d'invasion.
Voilà.
Il y a un paquet de conséquences là, de, qui, à l'époque, bon, c'était peut-être... Les gens n'étaient pas prêts à ça, mais ça posait toutes les bases du droit international actuel.
Oui. Et maintenant, Brian McDonough, de votre côté, vous voulez nous parler de Jean Vanier, décédé en mai dernier. Donc, Jean Vanier, célèbre fondateur de l'Arche, une organisation internationale consacrée aux personnes ayant une déficience intellectuelle, une organisation dans laquelle vous avez œuvré également, Brian.
Alors, Jean Vanier est un homme qui m'a personnellement beaucoup marqué, et beaucoup marqué des auditeurs et des auditrices, sans doute, qui ont connu cet homme qui avait des charismes extraordinaires. Non seulement est-ce que c'est un visionnaire et un prophète, d'abord, il a su qu'à un certain moment, des personnes qui avaient un handicap intellectuel et qui se trouvaient dans des grandes institutions, des grands hôpitaux, devaient être retirés de ce milieu-là qui ne leur permettait pas de s'épanouir et de vivre leur don de vie en communauté. Le génie de Jean Vanier, c'était de comprendre comment, dans un contexte familial ou des résidences type familial, ainsi que dans des ateliers avec une dimension humaine, ces personnes pouvaient vraiment s'épanouir et offrir des qualités de joie et de pardon assez extraordinaires. Alors, ce qui m'a beaucoup, beaucoup frappé dans les communautés de l'Arche que j'ai fréquentées, d'abord en France, à Trolley-Breuil, où cela a commencé en 64, et ensuite en Inde, c'est justement, il y a une joie. Une joie qui est liée à une certaine simplicité dans le style de vie et l'accueil mutuel. Hein? Un accueil mutuel avec une ouverture au pardon.
Oui.
C'est extraordinaire ce qui est. Alors, il y a aujourd'hui des communautés de l'Arche un peu partout sur la planète et c'est assez extraordinaire de voir comment, sur plusieurs générations, on a voulu transmettre justement ce charisme-là. Aussi, Jean avait un charisme ou un don pour la parole. Lorsque Jean parlait à partir de texte biblique, ou particulièrement le quatrième évangile qu'il adorait, on sentait un homme d'une grande intériorité qui, à travers son contact avec les personnes exclues, les personnes ayant un handicap, les prisonniers, les personnes maganées, les personnes blessées dans le monde, cela apportait une nouvelle lumière aux paroles de l'évangile. Et il savait comment transmettre et communiquer dans le tréfonds. Alors ça, je pense que c'est un grand, grand don. Aussi, Jean avait ce courage et cette vision de dire que les communautés de l'Arche ne sont pas exclusivement pour des chrétiens et des chrétiennes, mais on pouvait justement démarrer des communautés semblables dans un milieu musulman, par exemple en Palestine, ou encore dans des contextes hindous, en Inde. Alors, c'est pourquoi je me suis trouvé à Calcutta, mais aussi il y avait des communautés de l'Arche à Chennai, à Kattuvakkam, en Bangalore et puis au Kerala. Alors, c'était en quelque sorte une vision inspirée certainement de l'Évangile, mais qui s'implantait là où il y avait un besoin urgent. C'est ça que je trouve assez extraordinaire. Et encore, combien de personnes ont vu leur vie, même je dirais leur priorité bouleversée suite à un contact avec Jean Vanier. Ça, c'est très, très fort.
Donc, dans les grands principes de la doctrine sociale de l'Église, là, je reconnais la dignité humaine.
Et l'option préférentielle avec les pauvres. À quel point, dans les communautés, et ça, c'est l'intuition de Jean, il fallait vraiment se mettre à l'écoute, à l'école des personnes qui sont pauvres et exclues. Alors, quelquefois, dans les grandes instances international, on se soucie d'assurer que des personnes ayant un handicap puissent y intervenir et offrir leur sagesse, leur parole ou leur témoignage par leur présence même.
Oui,
Oui. C'est très, très fort.
Mais merci de nous avoir amené en mémoire Jean Vanier et Brian McDonough. De votre côté, Daniel Cadrin, un mot maintenant sur une sainte de chez nous, Marguerite Diouville. En quoi est-elle pour vous un important témoin d'un christianisme engagé? Oui.
Marguerite Diouville, de son vrai nom, du France de la Jemeraie, Diouville est le nom de son époux. De plusieurs manières, mais entre autres, je reviendrai là-dessus, c'est sa charité universelle. Le pape Jean XXIII, quand il l'a béatifié en 59, a dit « Mère à la charité universelle, vraiment universelle. Mm-hmm. » Je reviendrai là-dessus. Et elle a une vie très difficile. Elle vient de Varennes. Son père meurt assez jeune, il déménage à Montréal. Bon, finalement, elle épouse François Diouville. Ils auront 6 enfants, 4 vont mourir en bas âge. C'est pour l'époque, c'est comme ça. Oui. Et ensuite, son mari meurt aussi, en 1630. Donc elle perd aussi son époux. Et ensuite, la vie est difficile, il faut qu'elle se débrouille. Son mari était un coureur, comme on disait, un beau cavalier, mais un coureur. Elle-même, on dit qu'elle était une des plus belles femmes de son époque. Une grande femme magnifique et impressionnante. Bon, mais ce qu'elle fait, c'est toute une histoire. Ensuite, avec quelques compagnes, elle va se mettre à accueillir des personnes âgées, des femmes en abandonnées, toutes des gens en difficulté chez elle. Et ensuite, ce petit groupe va louer une maison où elle va se mettre à accueillir toutes sortes de monde. Et elles seront extrêmement critiquées par la société du temps. Parce qu'elles, elles n'ont pas de limites. Elles accueillent toute personne en difficulté. Elles seront ridiculisées, méprisées, parce qu'elles s'occupent du pauvre monde, du monde de la rue. Ensuite, ça va changer en 1747. On lui confie l'hôpital général de Montréal. Parce qu'elle est une femme capable, une femme d'entreprise, très débrouillarde. Et elle a tout son réseau avec elle, ce qui va devenir les Sœurs Grises. Et on lui confie l'hôpital général. À l'époque, l'hôpital général, il ne faut pas le prendre au sens moderne d'hôpital pour la santé. Ça, c'est l'hôtel Dieu à Montréal qui joue ce rôle-là. C'est plus comme un refuge. Alors, l'hôpital général, elle va te réorganiser ça. On accueille des bébés abandonnés, les mères en difficulté, des filles de la rue, des filles prostituées, des vieillards estropiés. On a des listes de l'époque, là, des malades mentaux. Toute personne, toute personne misérable a place, est accueillie chez elle. Quand il y a la guerre en 1760, l'accueil des soldats, mais aussi les soldats anglais.
Oui, ah oui.
L'ennemi, on l'accueille. On s'en occupe. Il n'y a pas de limite à sa charité. C'est assez extraordinaire. Et ensuite, la communauté des Sœurs Grises va naître de ça. Et elle, c'est une femme très, très débrouillarde, je veux dire, femme d'affaires aussi. Mm-hmm. Il faut nourrir tout ce monde-là. Elle va acheter des terres. Elle va vraiment se débrouiller. Ensuite, la tragédie, c'est en 1765. L'hôpital général brûle. Tout est perdu. Elle se retrouve avec toutes ces personnes misérables dont s'occuper. C'est terrible. C'est de dire, qu'est-ce qu'on va faire? Non, c'est pas laisser aller. Et là, ça a été assez rapidement, l'hôpital a été reconstruit. Tout est reparti. Elle a trouvé les ressources, tout ça. Elle a été aidée, entre autres, par les Autochtones d'Oka, parce qu'elle avait beaucoup aidé lors d'épidémies. Elle a été aidée par des gens de Montréal, là, qui la boitent d'une autre manière. Elle a été aidée par les gouvernants. Il y a une quête qui s'organise dans la ville de Londres pour les sinistrés de Montréal. Elle va être aidée aussi par les non-doniens. Et tout repart. Et tout fonctionne. C'est une espèce de résilience assez extraordinaire. Et toujours, elle fait appel à d'autres. Ça, c'est comme dans ce cas-là. Hein? Pas tout seul. Hein? Toujours en lien avec d'autres. Et tu n'abandonnes pas. Et elle ne se gênera pas. À un moment donné, elle va être attaquée par... au début de l'hôpital général de Montréal, bien des gens ne sont pas d'accord avec son idée que ce soit là, dont l'intendant Bigot et d'autres, et qui vont l'attaquer et tout, qui vont essayer de lui enlever l'hôpital, de l'éliminer, hein, l'hôpital. Il va faire appel à finalement au roi. Hein, et Louis XV va intervenir pour dire non. Mm-hmm. L'évêque va l'assurer, elle se bat.
Oui,
c'est très clair.
Oui. Donc, encore une fois, il y a des échos avec Jean Vanier. Est-ce que...
Moi, je dirais, elle est beaucoup comme Mère Teresa.
Oui.
Une femme qui a une force de caractère, mais aussi qui savait comment faire appel à des instances politiques, ecclésiales. Et devant d'énormes crises, elle savait comment à répondre à la situation. C'était vraiment Mère Teresa de son époque, dans son contexte. Une femme d'intelligence, de force et un sens de l'organisation extraordinaire.
Puis une profonde spiritualité.
Absolument.
C'est toute la spiritualité de l'école française qui est derrière ça, comme chez Vincent de Paul. Hein. La confiance en Dieu provident, le verbe incarné, vraiment proche.
C'est intéressant, ça aussi, l'équilibre entre vie intérieure et vie d'action.
C'est tous les toits dont on a parlé, c'est très présent.
C'est ça. Donc, il n'y a pas de paradoxe ou il n'y a pas de, comment dire, la vie intérieure est tout aussi possible avec une vie engagée.
Elle va avec, autrement, tu ne tiens pas.
C'est ça, la spiritualité nourrit l'engagement.
Oh, oui, très clair.
Absolument, tout à fait. Et maintenant, Brian McDonough a vous l'honneur de nous présenter une dernière figure d'un christianisme socialement engagé. Vous allez nous parler de sœur Dorothy Stang, que ne connais pas, donc j'ai hâte de vous entendre.
Alors, justement, je reviens sur le continent sud-américain. Daniel a parlé justement de Bartolomé de las Casas, et pour faire honneur à cette tradition-là, il faut reconnaître, surtout dans le contexte du synode pour l'Amazonie, qui se déroule actuellement à Rome, à l'importance de ces religieux, religieuses qui ont voulu se faire solidaires des Autochtones et des paysans en situation de pauvreté. Dorothy Stang est une religieuse américaine qui a fait partie de la congrégation des Sœurs Notre-Dame de Namur. Elle a fait de l'enseignement, mais elle sentait un appel à un engagement plus radical. Elle s'est trouvée au Brésil et elle commençait à vivre en Amazonie avec justement les Autochtones ainsi que les petits paysans qui était continuellement terrorisé par les milices au service des grands propriétaires terriens. Et c'était une situation dramatique qu'elle vivait. Mais elle vivait vraiment cette radicalité, une simplicité, partageait la nourriture, dormait par terre. Elle vivait vraiment son engagement de façon assez radicale.
Absolue.
Tout à fait. Sœur Dorothy Stang aussi, à un certain moment, elle a profité d'un stage pour se familiariser davantage avec une spiritualité de la création, une spiritualité qui marque profondément Laudato Si, l'encyclique du pape François dont on a fait mention tout à l'heure. De voir, par exemple, dans la nature, dans la création, la présence de Dieu. C'est comme l'image de Dieu ne peut pas être restreinte seulement à l'être humain, mais dans toute sa création. C'est encore une idée thomistique, ça. Voilà. Mais ça, c'est très, très, très fort de constater chez elle ce sens du sacré. Et lorsque, par exemple, les grands propriétaires cherchaient à brûler la forêt, brûler la forêt, tout simplement pour avoir un lieu de pâturage qui allait bénéficier les richissimes, aux dépens des grands terriens, elle s'opposait. De telle façon qu'elle était devenue vraiment une prophète et de plus en plus, elle recevait des menaces de mort. Et finalement, un jour, elle a été confrontée par un groupe d'assassins au solde d'un grand propriétaire. Et puis, elle les a confrontés directement et elle savait que son moment est arrivé. Pour moi, c'est une confrontation qui me rappelle beaucoup, par exemple, le récit de Jésus dans le jardin de Gethsémani.
Qui sait ce qui va arriver.
Exactement.
Lui aussi.
Et elle a commencé à réciter le chapelet et on a tiré dessus. Elle est morte. C'est vraiment une martyre pour l'Amazonie. Une martyre qui a donné sa vie à cause de sa solidarité avec les Autochtones de l'Amazonie, à cause de son amour pour les paysans, les paysannes, qui étaient vraiment à la merci des puissants, des richissimes de la région, qui étaient appuyés par les instances politiques. Alors, c'est un grand prophète pour nos temps, un grand prophète qui, justement, rappelle justement que tout est lié, que lorsqu'on détruit la création, lorsqu'on ne respecte pas la nature, ce sont les personnes en situation de pauvreté, les exclus, qui sont les premiers à subir. Et puis nous, comme disciples de Jésus, nous sommes invités à nous faire solidaires, oui, non seulement des paysans et des autochtones, mais aussi responsables pour la sauvegarde de cette création que le Seigneur nous a confiée.
Oui. Oui. Vous avez évoqué ce terme prophète, prophétisme. Quel sens ou qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là dans une réflexion sur l'engagement social de l'Église? C'est quoi être prophète? C'est quoi faire œuvre de prophétisme aujourd'hui, en quelque sorte?
Un aspect pour moi, c'est la critique des idoles. Isaïe, Amos, Jérémie, tous les grands prophètes, au nom de la foi au Dieu vivant, grand et bon, créateur, critique les idoles auxquelles tu sacrifies tout et qui finalement te détruisent et qui t'aliènent. Hein? Et chez les grandes figures actuelles, il y a toujours une critique des idoles au fond, que ce soit le pouvoir, que ce soit l'argent.
Donc, société de consommation.
Oui, bien les manières, mais oui, il y a une critique des idoles qui est importante.
Ah, intéressant. Et Brian, de votre
côté? Pour moi, le prophétique reflète justement ce courage intérieur où on est prêt à affronter, de dire la vérité devant le pouvoir,
oui,
en face du pouvoir. De parler au nom des exclus, les personnes en situation de pauvreté, de marcher avec, même si ça va nous coûter cher, même si on va subir des menaces et même avoir à donner sa vie.
Hein? Donc, comme Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste. Non
pas le patron des Canadiens français, mais Jean-Baptiste, prophète, qui critique les pouvoirs, qui appelle au partage, qui invite aussi à la non-violence, une grande figure.
Donc, l'engagement total.
Oui.
C'est ça, le prophétisme. Et Daniel Cadrin, Brian McDonough, vraiment, ça a été un tour d'horizon trop court, mais fascinant. Un grand merci pour votre passage en studio aujourd'hui. Vraiment, ça a été très intéressant. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. Alors, je rappelle que Brian McDonough est professeur invité à l'Institut de pastoral des Dominicains, qu'il a longtemps été le directeur de l'Office de la pastorale sociale à l'archevêché de Montréal. M. McDonough a également siégé au comité consultatif régional de la Commission de vérité et de réconciliation. De son côté, Daniel Cadrin est directeur adjoint de l'Institut de pastoral des Dominicains de Montréal, en plus d'y enseigner. Daniel Cadrin et Brian McDonough donnent actuellement à l'Institut de pastoral un cours sur l'enseignement social de l'Église et sur ses témoins, sujet qui était au cœur du présent entretien. La semaine prochaine à Foi et Turbulence, cette fois en formule table ronde, François Gloutenay sera entouré d'intervenants et d'intervenantes qui analyseront les moments forts de l'actualité sociale, politique et religieuse, tant nationale qu'internationale. Je rappelle que cette émission est produite par l'Institut de pastoral des Dominicains avec le soutien financier de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse et de la Fondation Adieu va. Je m'appelle Mathieu Lavigne, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. À bientôt.